aussi. Et donc, pour le mois de septembre, ben, Paul et Nadia et leurs enfants s'installent sur Nîmes. Ils commencent à prendre leur marque, à voir comment fonctionne l'église. Paul est déjà venu vivre deux premiers conseils, voir comment ça se passe. Et par contre, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas le clone de Norbert. Donc, il va y avoir de la place. Parce que Norbert, vous ne le savez peut-être pas, mais il a quelques cheveux blancs et il arrive en âge d'être à la retraite. Et il a demandé officiellement sa retraite pour la fin de l'année. Donc, nous aurons l'honneur et le privilège de fêter cela. Nous n'avons pas encore fixé de date, mais commencez à y penser. Et du coup, ben, ça va laisser pleine place à des personnes pour s'engager encore, à vivre de belles choses. Et puis, on va avoir aussi la joie et le privilège de Paul de servir et de nous apporter tout ce qu'il a donné. Et je suis sûr que ce souffle nous fera du bien parce que il a l'air d'avoir du gaz, comme on dit chez nous. Du peps, voilà. Du peps. Alors, sois le bienvenu, Paul, et merci beaucoup pour ce partage ce matin.
Eh bien, ça va gazer. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, pour l'accueil qui nous est manifesté à ma famille, à nos enfants, à moi-même, depuis que le Seigneur nous a placés sur ce chemin où il nous conduit de surprise en surprise, j'ai envie de dire. Mais votre attention bienveillante, vos mots, votre discrétion aussi dans l'accompagnement, nous a rassurés à bien des égards. Hier, j'ai partagé avec la commission de louange cette pensée que j'ai eue à cœur de Jean chapitre 3, verset 30, quand j'arrivais pour m'associer à leur réflexion. Et c'est Jean-Baptiste dans un contexte de transition, justement, pour lui, dans son ministère, lui qui a été jusqu'ici au devant de la scène en tant que précurseur, ouvrant la voie du Messie, cette voix tonitruante dont j'ignore l'accent qu'il pouvait ou qu'elle pouvait avoir. Je ne sais pas s'il y avait un accent comme sur Nîmes, un accent si complexe. Car il criait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et il a connu cette transition quand le Seigneur, pas Paul et Fona, hein, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il a baptisé en recevant humblement le témoignage de l'Esprit-Saint, vous vous souvenez, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai posé toute mon affection. Il a su écouter le témoignage de l'Esprit-Saint. Il a su voir ce que plein d'autres au milieu de lui n'ont pas vu. Et il a proclamé que voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et alors, quand le Seigneur Jésus a commencé, pas tout à fait encore, mais en tout cas ses disciples, à baptiser d'autres, alors là, il y a eu un trouble dans cette transition. Et quelques-uns se sont dit, mais Jean-Baptiste, qu'est-ce qui se passe là? Il commence à attirer plus de gens que nous. Et il commence à baptiser plus que nous. Alors dans la transition, il peut y avoir parfois ce piège qui nous guette de faire notre arithmétique, de sortir notre calculatrice, et de faire un peu comme dans le combat de David contre Goliath, et ce qui avait envenimé la situation, c'était on disait, mais Saül a tué 1000 et David 10 000. Le Seigneur n'est pas dans cette comptabilité-là. Le Seigneur n'est pas dans cette comparaison-là. Et Jean-Baptiste, à qui Jésus va rendre hommage, et je voudrais imiter Jésus en rendant aussi hommage à ceux qui nous devancent. Jean-Baptiste dit à ses disciples, n'entrez pas dans cette comptabilité-là. Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. Et j'ai partagé. Alors j'étais moins gêné parce que Norbert n'était pas là, donc je suis un peu gêné parce qu'il est là. Mais je ne veux pas qu'il s'en aille. j'ai partagé que j'ai vraiment, je touche vraiment avec Norbert cette expérience. Je le vois et je le sens dans tout son cœur, tout ce qu'il met en place, tout ce qu'il fait. Et c'est comme inspiré par cette parole, il a le désir que je prenne ma place comme pasteur et que lui, il diminue. Et je disais que moi, j'ai tout autant le même désir, qu'il continue de croître dans son ministère. Parce que le ministère ne se termine pas avec la retraite. Et que moi aussi, je diminue. Et que si l'un l'autre, nous avons ce regard, alors, dans toute l'Église, voyons, ça se déplacement un peu de notre obsession personnelle. Alors c'est beau. Parce que nous tous, nous reprenons notre juste place d'être simplement ce dont la vocation est de pointer vers le Christ. À lui soit la gloire. Merci Norbert pour ton cœur et merci aux uns aux autres d'être tout simplement qui nous sommes, ces gens qui veulent pointer vers le Christ. Différent, mais pas indifférent. Alors ceux qui me connaîtront, je vous préviens, ce n'est pas mes dernières larmes que vous voyez. Et vous pouvez dire, mais c'est paradoxal, il a l'air tellement costaud et sensible, c'est vrai. Émotif, c'est aussi vrai. Mais le Seigneur m'a réconcilié avec ça. Différent, mais pas indifférent. Alors, moi, je vis en France depuis 20 ans. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà la moitié presque de ma vie. J'ai 43 ans. Et je peux dire que je vois que la question des différences, adossée souvent à celle de l'identité, on dit souvent l'identité française, travaille notre société et s'invite régulièrement dans les débats publics. Je me souviens même que fut un temps où on avait songé à créer un ministère de l'identité ou de l'intégration, quelque chose comme ça. Je vais vous rassurer, les mêmes questions travaillent la société camerounaise qui est très ethnicisée. On compte plus de 250 groupes ethniques au Cameroun et plus de 300 langues maternelles. Ce qui fait que Nadia, mon épouse et moi-même, nous ne pouvons pas communiquer dans nos langues maternelles en se comprenant. Alors nous sommes très reconnaissants d'être francophones parce qu'au moins nous pouvons nous parler en français et nous comprendre. Souvent, ces questions de différence, cette question d'identité se confondent, s'interpénètrent et sont souvent politisées. Et ce n'est surtout pas ce que je veux faire parce que ce n'est pas ma place. Et selon la manière dont on aborde ces questions, la question de la différence, me semble-t-il, peut être un instrument uniquement de clivage, érigeant, solidifiant les frontières, les barrières, délimitant dans le temps et dans l'espace ceux qui appartiennent et ceux qui n'appartiennent pas, ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas, ceux qui sont du bon côté et ceux qui ne le sont pas. Mais on peut aussi inviter à réfléchir à cette question de l'altérité au fond. Vous savez que alteritas dans le vieux latin est la racine du mot de différence. L'altérité convoque ce qui est autre que soi-même. L'altérité nous invite, comme le disait si bien Emmanuel Lévinas, à ne pas dévisager l'autre. C'est-à-dire à envisager l'autre, c'est-à-dire à reconnaître son visage. C'est très singulier et caractéristique. Parce que voyez-vous, il est quasiment impossible de faire société sainement, de vivre ensemble et de faire fraternité sainement, même Bible en main, je le crois, si nous n'envisageons pas l'autre. Si nous ne prenons pas le temps dans nos bonjours shalom, de prendre conscience que l'autre n'est pas seulement l'alter ego, c'est-à-dire un autre moi, mais il est radicalement autre. il a sa différence singulière. C'est ça l'altérité. C'est beaucoup plus complexe, bien entendu. Mais on peut donc inviter à réfléchir à cette question de l'altérité en la corrélant à la sociabilité, c'est-à-dire à cette capacité de vivre ensemble et de vivre dans l'accueil bienveillant, non pas subir, mais intentionnel de nos différences, croyant que nos différences sont une richesse. Et nous sommes bien placés en tant qu'Église pour le comprendre, parce que Dieu, que nous proclamons, que nous aimons de tout notre cœur, Père, Fils et Saint-Esprit, est lui-même l'un et le divers. Le Père et le Fils ne se confondent pas. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ne se confondent pas. Il y a donc, dans l'être même de Dieu et dans la nature même de Dieu, l'inscription de cette altérité, de cette différence, qui rend possible et qui prépare la rencontre et le vivre ensemble, qui est un défi colossal pour notre société et notre monde si inégalitaire, si fracturé et qui manque cruellement de fraternité authentique. Mais l'Église peut-être, quand elle est à l'écoute de l'Esprit de Dieu et du Christ, et quand elle se laisse travailler pour être sans cesse dans la conformité, dans la ressemblance au Christ, elle peut jouer ce rôle de prophète, d'artisan de l'altérité qui construit. On peut aussi aborder ce thème, et parfois j'ai eu le sentiment que ça manquait dans le paysage public, avec moins de gravité qu'on le fait, avec moins d'enjeux, comme si c'était l'alpha et l'oméga de notre politique. Non, l'enfer, c'est pas toujours l'autre. Mais l'autre non plus, c'est pas le paradis absolu. Alors que faire? Eh bien, on peut dédramatiser. Et moi, j'aime beaucoup la comédie parce que parfois, elle use de cet humour et même de cette autodérision que je trouve être un signe de sagesse. Je dirais peut-être pas d'intelligence, mais de sagesse au sens presque biblique, d'expérience, de recul sur soi, de recul sur les choses, de garder cette capacité à faire un pas de côté et à en rire. Dans mon ancienne église, où j'étais pasteur, en face, il y avait une boulangerie qui s'appelle La Tentation. Alors moi, je traversais souvent la route parce que je me sentais tenté. À vrai dire, je me laissais tenter. Une fois, je suis entré et je leur ai dit, écoutez, madame, je suis le pasteur de l'église baptiste en face. Mais je viens ici parce que je suis tenté. Alors, monsieur, qu'est-ce qui vous tente? Je dis, je voudrais bien une religieuse, s'il vous plaît. Je ne sais pas dans quoi je me gâche, là. Ce n'est pas le retour de bâton que je vais avoir en envers, mais il faut se mouiller à un moment donné. Je peux faire un pas de côté. On a rigolé, mais on avait identifié. J'espère comme un pasteur, pas austère, qui peut être drôle. Et puis, le marchand du commerce du circuit court d'à côté, c'est pareil. Je lui achetais du jus de raisin pour notre Sainte-Seine. Et un jour, il avait un bon vin de noix, un bio fait dans sa ferme et tout, qu'il m'a proposé. Il m'a dit, vous devez goûter, monsieur le pasteur, à ce vin. Et puis, il y a ce pain d'épices, goûtez. Et j'ai goûté, c'était bon. Mais vous voyez, si vous mettez ça à l'Eucharistie, ça va remplir votre église. Je lui ai simplement dit que je ne suis pas sûr que ce serait du goût de tout le monde. Et puis en plus, je ne suis pas sûr que l'église a le budget pour s'offrir son vin de noix et son pain d'épices tous les dimanches. Hein. Oui, nous devons pouvoir aborder ces questions avec un peu d'humour parfois et moins de crispation. Vous avez vu qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais voilà, je trouve que c'est une manière, alors elle peut être discutable, hein, c'est pas la parole, mais c'est une manière comique de poser encore dans la société française ce débat et la famille comme justement lieu où on apprend la différence, où on questionne la différence, où on vit avec des choix différents des uns et des autres, ce qu'on approuve, ce qu'on n'approuve pas, mais comment dealer avec tout ça? Pas facile. Et je n'ai pas forcément des réponses, mais j'essaye juste de partager avec vous quelques réflexions qu'ont suscité en moi ce beau thème différent, mais pas indifférent. Alors, ni moi, Gardois, on dit ça, Gardois? Super. Donc, je l'ai mis intuitivement comme ça. Mais... Français, espagnol, est-ce qu'il y a des nationalités différentes ici? Dites un peu votre nationalité là, si vous sentez libre là, que j'entende. Oui? Américaine, Colombie, espagnol, ivoirienne, Maroc, canadienne, Espagne, Tunisie, Sénégal. Oui, j'ai vu le Sénégal hier. Martinique. Parisien, ouais, il y a même des Français. Et pourtant, nous sommes exactement dans la situation, d'une certaine manière, du groupe des disciples de Jésus lors de l'épisode de la Pentecôte. Et petit, hein, j'arrive vers le sujet hein, biblique, parce que je ne vais pas faire une prédication hors texte biblique. Et vous savez ce qui s'est passé à la Pentecôte, une sorte d'événement de Babel à l'envers. À Babel, c'était la différence qui sépare, la diversité qui crée la zizanie, le capharnaüm. On parle pour ne plus se comprendre hein, et on ne s'entend que dans nos différences. À Pentecôte, il y a des langues, il y a une diversité, mais il y a un seul esprit. Et il y a un message, un seul message qui est donné dans la diversité des langues. Alors on dit, mais ces hommes ne sont-ils pas partes? Ne sont-ils pas? On cite leurs différentes origines. Et on dit, mais comment se fait-il alors que nous les entendons parler des merveilles de Dieu en notre langue maternelle? Waouh! C'est le défi d'aujourd'hui. Comment entendront-ils parler des merveilles de Dieu en leur langue maternelle, dans leur culture en France? On a souvent imaginé que c'était juste le défi des missionnaires qui allaient vers les peuples non atteints, qui devaient passer par la Wycliffe, très belle mission, apprendre l'hébreu, le grec, comme nous l'avons fait à l'école biblique, en faculté de théologie, et ensuite apprendre les langues locales, ethniques, pour aller parler au loin. Mais cette mondialisation fait que notre géographie est un peu bouleversée d'une certaine façon. En tout cas, si on ne suit pas les espaces physiques, mais les personnes. Regardons notre assemblée, on a entendu cette mondialisation. Ici même, dans la diversité de nos appartenances nationales, au départ du moins. Et pourtant, comment se fait-il que ni moi, Parisien, Colombien, Espagnol, Tunisien, Sénégalais, Canadien, Allemand, etc. et même Camerounais sont traversés par un même esprit et sont porteurs d'un même message. Faire entendre les merveilles de Dieu. Aujourd'hui, là où nous vivons. Quelle belle mission, n'est-ce pas? Dans ses propos introductifs, mon frère Norbert, hier, nous a bien rappelé, et j'ai beaucoup aimé, ce qui fait fondamentalement notre différence, notre altérité. Il a dit, nous sommes différents parce qu'un jour, nous avons répondu à l'appel de Dieu, à l'offre du salut que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes différents parce que nous avons consenti à laisser à Jésus le gouvernail. Je restitue un peu Norbert, mais avec mes mots à moi, le gouvernail est le gouvernement de nos vies. Différent parce que nous avons accepté de marcher à sa suite, de nous mettre à son école comme ses disciples. J'aime beaucoup cette idée de se mettre à l'école du Christ. Et d'ailleurs, ça m'évoque souvent ce passage de l'apôtre Paul qui dit aux premiers chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Oui, marcher avec le Christ suppose un apprentissage. Et comme tout apprentissage suppose l'acquisition des savoirs fondamentaux, pas simplement savoir théorique, mais savoir être également et savoir faire. Et c'est le programme de toute notre marche et de tout notre pèlerinage. Et quand le Seigneur nous y conduit, alors frères et sœurs, il nous approfondit. Et parfois il nous ramène sur des choses qu'on croyait acquises. Parce qu'il veut continuer à conformer nos vies, à configurer nos vies au Christ et à soutenir cet apprentissage. Oui, parce que toute intégration et toute marche avec les uns avec les autres suppose d'apprendre à marcher ensemble. Je suis en train, pour ma part, vous l'avez bien remarqué, depuis ma dernière prédication sur le shibboleth, je suis en train d'essayer d'identifier ce qui pourrait être shibboleth ou shibbolétique entre nous. Je ne dis plus côtière de Nîmes, mais costière de Nîmes. Et hier, mon vocabulaire s'est enrichi de deux mots. Rebroussier ou rebroussière. Comment on dit ? Ah, mais vous voyez que je suis encore à l'école et que je dois mettre les accents. Rebroussier. Et puis mon frère, Norbert, est venu me voir. Au fait, est-ce que tu connais c'est quoi la pégoulade ? Parce que j'ai parlé, mais je n'ai pas expliqué la pégoulade. J'ai expliqué rebroussier, mais je n'ai pas expliqué la pégoulade. Alors il m'a expliqué. Apprendre à marcher avec celles et ceux de Nîmes suppose aussi l'acquisition de ce langage, de ce lexique, de cet esprit nîmois joyeux, qui ne se prive pas d'ailleurs d'avoir du répondant. Ça me va, tout à fait. À l'école du Seigneur Jésus, ses disciples ont appris à se situer dans le monde sans être du monde, c'est le thème, la variation en tout cas de notre thème, pour apporter à ce monde, non pas plus de ce qu'il a déjà, mais ce qu'ils ont reçu, eux, de manière singulière. Et en effet, on ne peut donner bien que ce qu'on a bien reçu. On ne peut donner bien que ce que l'on a bien reçu. Et ce que nous avons, me semble-t-il, bien reçu, parce que c'est du sûr, dans notre héritage, quel que soit notre itinéraire chrétien, quel que soit notre arrière-plan d'église, mais ce que nous avons bien reçu dans la transmission du témoignage apostolique des apôtres qui ont vu, qui ont touché, comme ils nous le disent dans l'épître de Jean, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont palpé au sujet de celui qui est la parole de vie. C'est cela qui nous a été transmis. C'est ce bon dépôt que nous avons reçu. Et parce que nous l'avons bien reçu, ou du moins si nous l'avons bien reçu, alors nous pouvons bien le donner nous aussi à notre tour. C'est l'idée de cette flamme olympique, hein, cette corde, ce chauffard, non pas qui sort de sa route et qui écrase celui qui est sur la voie piétonne, vous avez bien compris, ce chauffard. Cette corne qui est remplie d'onction, d'huile d'onction qui se déverse sur nous, comme d'ailleurs une image de la Pentecôte, ces flammes singulières qui sont posées, eh bien, c'est ce que les disciples apôtres ont dû recevoir en Actes chapitre 2 pour être équipés en vue du ministère que le Christ leur a confié d'aller en commençant par Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, être porteur de sa parole et témoigner de sa vie donnée par amour pour relever le faible, pour réconcilier chaque homme, chaque femme avec le Père. Voilà, frères et sœurs, notre appel toujours actuel et notre mission singulière. Celle qui ne sera pas dite par d'autres que par le peuple de Dieu. Certes, s'il se taise, hypothèse envisagée par le Christ lui-même, des pierres crieront. Le temps de laisser une pierre crier à ma place n'est pas encore venu. Elle criera peut-être comme Pierre Tombal et dira comment j'ai vécu. Mais tant que je peux le dire, moi je crierai avant qu'elle ne crie par-dessus moi. Amen. Et j'ai à cœur de partager avec vous maintenant un passage tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous voyez, arriver au chapitre 3 m'a pris quelques temps. Arrivons donc au chapitre 3. Considérons que la Pentecôte a eu lieu, que ce chauffard rempli d'onction, que ces flammes ont eu lieu pour nous aussi, que ce matin nous sont renouvelées pour nous équiper en vue de notre vocation. Mais comment faire pour être comme ses disciples, une église, un peuple de Dieu qui relève les hommes et les femmes que Dieu place sur son chemin et qui les amène d'un point où ils étaient parfois loin, parfois cabossés, amochés, à un cœur à cœur, à une vie d'adoration, à une vie de louange, à la gloire de Dieu. C'est un peu cette histoire dont ce texte va nous parler rapidement. Actes chapitre 3, versets 1 à 11. Je n'ai pas de bouteille d'eau, je crois que j'en aurais grand besoin, et pour me ménager, je ne veux prendre personne au dépourvu. Merci mon frère. Est-ce que quelqu'un voudrait bien lire ? Olivier, par exemple, je te passe le micro.
Merci.
1 à 11, c'est ça ? 1 à 11. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui, et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche ». Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelait Galerie de Salomon.
Vous avez vos Bibles à main ou vos téléphones, vous voyez bien que nous sommes dans le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, donc juste après le chapitre 2 où il y a eu cet événement pentecostal, avec le premier grand discours, prédication de l'apôtre Pierre, qui nous impressionne, il fait l'appel, il y a 3000 convertis, les gens ont faim, les gens ont soif de l'enseignement des apôtres, tant et si bien qu'on nous dit que les réunions étaient pleines, remplies, et les gens mâchaient, ruminaient l'enseignement des apôtres, et persévéraient jour après jour dans cette belle dynamique, partageant le pain, partageant un idéal de solidarité à un point tel qu'ils ont engagé leur propre bien dans ce partage commun. Un tableau assez impressionnant. Et j'ai parfois eu le sentiment dans mon itinéraire chrétien que nous étions restés un peu nostalgiques parfois de ces premiers temps de l'Église naissante comme une sorte de paradis perdu qui nous était dorénavant et à jamais inaccessible. Alors soit on est trop dans l'idéalisation de cette Église naissante et on n'arrive pas à voir ou à accepter ce que le texte nous dit par la suite avec Ananias et Saphira et puis avec la fin d'ailleurs de cette belle idée de tout mettre en commun, mais ils ont dû, en marchant, inventer, sous l'impulsion de l'esprit, des solutions nouvelles aux problèmes nouveaux qu'ils se posaient à eux. Et je crois que c'est ça que nous sommes appelés à faire, en étant une communauté à l'écoute de l'esprit, avancer en trouvant les solutions nouvelles qui se posent à nous face aux problèmes nouveaux. Et non pas forcément être dans une sorte de répétition, de plaquage de ce qu'on a lu littéralement dans l'Écriture. Parce que je ne pense pas que c'est vers ça que l'Écriture nous oriente. Ce n'est pas un copier-coller, tout simplement. Hein. Mais c'est une écoute profonde, me semble-t-il, de l'Esprit, qui nous donne les solutions d'aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la même parole de Dieu. Alors, dans cette section qui va jusqu'au chapitre 8, les événements qui nous sont racontés se déroulent uniquement à Jérusalem, vous l'aurez remarqué, et les principaux destinataires sont membres du peuple juif, sont donc des juifs, comme Pierre par ailleurs. Et nous voyons l'église naissante autour justement de ces apôtres, ici c'est le binôme Pierre et Jean qui est souvent associé par Luc dans son livre, sous l'action de l'Esprit-Saint, devenir un peuple de témoins de Jésus crucifié. Devenir un peuple de témoins, ça suppose qu'il y a eu un déplacement. Vous vous souvenez qu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient verrouillés. Ce qui s'est passé entre les deux séquences, il y a eu la Pentecôte. Hein, et le Christ est surtout venu beaucoup les réconforter, se montrer à eux et les accompagner, n'est-ce pas? Et on voit ici qu'ils sont dans le programme du Christ, hein, dans le programme messianique d'accomplissement des promesses, d'accomplissement de l'espérance messianique de l'Israël de Dieu. Nous sommes juste donc après l'épisode de la Pentecôte, épisode accomplissant, comme l'apôtre Pierre va le rappeler dans son développement, la promesse de Joël, la prophétie de Joël, l'effusion de l'Esprit-Saint aux apôtres et aux disciples de Jésus, à la communauté de Jésus. L'Esprit-Saint promis par Jésus, comme l'autre paraclet, l'autre défenseur, va les remplir de la puissance de rendre témoignage à Jésus, mais non seulement en parole, mais également un acte de puissance. Miracles et prodiges font encore partir aujourd'hui du programme de notre Seigneur. Est-ce que nous le croyons? Oui, mais cela ne dépend pas de nous, mais de lui. Et nous verrons. Ces actes rendus capables par cette dynamisme, cette puissance de Jésus agissant en eux par son Esprit Saint, sont là pour attester que désormais, oui, même si on ne peut plus le voir physiquement, Jésus, son esprit continue d'agir à travers sa communauté, son peuple, c'est-à-dire l'Église. Et la fin du chapitre 2 dresse donc ce tableau remarquable que j'ai déjà rappelé. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la prière. Ils étaient assidus au temple. Et on voit au chapitre 3 qu'il n'y a pas eu au tout début du christianisme une rupture nette, une cassure avec le judaïsme. Tout comme Jésus, les apôtres se rendent au temple. Ils se rendent au temple dans les heures liturgiques du temple. On nous dit que c'est la neuvième heure. Une heure d'offertoire, comme les vêpres qu'on célèbre dans d'autres traditions chrétiennes. Et ils vont à ce moment-là, dans ce temps de prière, parce qu'ils n'ont pas déconnecté la vie de prière et la puissance du ministère qui leur est confié. Et si nous voulons apporter au monde notre différence, je le crois profondément, ça va commencer à genoux. Et parce que vous ne m'avez pas attendu pour le commencer, donc il y a une belle continuité à vivre. Je bénis le Seigneur d'être arrivé dans une église priante, comme l'était celle que j'ai laissée aussi, même si vous êtes beaucoup plus nombreux, mais de pouvoir avoir cette belle continuité aussi. Tout ne doit pas être le lieu d'une cassure. Et le christianisme a su accueillir ce que le judaïsme avait à lui apporter. Et c'est ce que les apôtres sont en train de vivre ici. Et ils ont pu, sur ce chemin, être touchés par la condition d'une personne. Ils n'ont pas été indifférents à ce qui se passe ici, devant la belle porte du temple. Merci beaucoup. C'est important. Parce que si nous cultivons uniquement notre différence, d'abord nous faisons fausse route parce que l'objectif et le projet de Dieu, ce n'est pas soyez différents. Ce n'est pas un projet en soi de dire soyez différents. Ce n'est pas un projet. C'est pour ça que Norbert nous a rappelé que notre différence est une résultante de ce que le Christ a fait pour nous et de notre identité en Christ. Mais notre différence, c'est aussi cette mission que le Christ nous a confié. Si nous distinguons, si nous n'avons plus aucun contact avec le monde, la société qui évolue dans un sens où elle veut aller sans Dieu, Dieu en dehors de la cité, si nous ne comprenons pas ce qui s'y vit, si nous ne voyons rien qui peut être une passerelle entre nous et ce monde-là. Nous allons effectivement rester étrangers complètement au monde. Et donc, incapables, inaptes à apporter ce que nous avons reçu. Si en revanche, et nous pensons beaucoup aussi à nos jeunes qui vivent dans un contexte où les repères foutent le camp, mais de plus en plus, où la norme... Attends, suivez-moi bien. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Avant, la norme, c'était la permanence. C'est-à-dire, par exemple, des valeurs permanentes, la fidélité. Un partenaire, un conjoint, dans le cadre de la conjugalité voulue de Dieu, le mariage, et une vie qui en découle conjugale. C'est ça la norme, c'est-à-dire une permanence. Aujourd'hui, la permanence, autrement dit la norme, c'est le changement, c'est la variation, c'est la société de la fluidité, de la mobilité extrême, et donc ça change constamment. Tant et si bien que les définitions les plus élémentaires, d'autres fois, le père qui est un père, qui est une mère, qui est un homme, qui est une femme, qui n'avait pas toujours du bon dans tout, mais qui avait ce mérite de poser des repères. Parce qu'on ne peut pas se construire bien si on n'a pas quelques repères pour se structurer. Foutre de plus en plus le camp et laisse notre jeunesse dans une angoisse. Parce qu'on se décharge sur eux de la responsabilité de choisir, d'inventer en marchant leur identité. Bienheureux, le jeune, la jeune, qui ne se laisse pas entraîner dans les méandres de cette société, de ce monde-là, et qui n'a pas besoin d'attendre de ce monde-là son identité, mais qui la reçoit comme un don de Dieu, du Christ lui-même. Et alors, fort de son amour, fort de cette identité de fils et de fille de Dieu, je peux m'engager dans le monde en gardant une distance critique, sans me laisser diluer dans le monde. Parce que si nous nous diluons dans le monde, alors nous n'avons rien à apporter au monde. Or, je suis convaincu que vous et moi, vous êtes d'accord pour dire que nous avons quelque chose à apporter au monde et que ce quelque chose fait la différence. Amen. J'ai entendu ça dans une parole de sagesse ou de connaissance ou prophétique. Alors, un jour, on aura une étude, hein, parce que tout ça, ce n'est pas la même chose. Voilà, mais je referme vite cette parenthèse. Alors, notre parole doit être vraiment, vraiment articulée à notre action. Ce qui me touche dans ce texte, il faut que je vienne à ce texte rapidement. Attends, passe, hein, c'est horrible. Il fait chaud. Je voudrais nous rendre attentifs à ce texte, non pas seulement à la guérison pour ce qu'elle est. C'est le premier miracle après la Pentecôte, et c'est un miracle de guérison. Et c'est, pour moi, c'est très symbolique. Et nous allons voir en quoi cela est symbolique. D'abord, on est placé devant la situation d'un homme. Il n'y a pas de suspense, puisque sa situation au départ, c'est une situation terrible, catastrophique, douloureuse. Et on va voir sa situation à la fin, le texte nous le dit. À la fin, il quitte sa place de l'aumône. Il ne mendie plus la charité, hein, mais il est dans l'offrande. Non, il ne prend pas son lit, s'en va, c'est pas là. C'est un autre récit, ça. Il entre dans le temple avec Pierre. Il entre dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il donne sa louange. Il donne son adoration. Lui qui recevait. Vous voyez le renversement incroyable? Il recevait la charité, l'aumône. Mais le voilà dans la maison de Dieu. Le voilà réintégré dans la maison du Père. Il ne demande plus. Il donne. Il offre. Notre appel, notre singularité, c'est de faire ce travail que d'autres ne feront pas. D'être capable d'accompagner les hommes et les femmes de notre monde, de là où ils sont, jusqu'à leur cheminement pour qu'ils rencontrent le cœur du Père. Amen. Amen. Et quand ils entrent dans la maison du Père, quelles que soient d'ailleurs nos dénominations, ils découvrent qu'ils sont aimés, ils découvrent qu'ils ont reçu quelque chose, et à leur tour, ils donnent gloire à Dieu. Ils donnent louange à Dieu. Ils ne sont plus réduits à leur mendicité indigente, mais ils deviennent des louangeurs, des adorateurs à la gloire de Dieu. Voilà ce qui s'est passé. Mais pour que cela se passe, il a fallu un cheminement. Il y a eu 3 temps dans ce récit et nous allons les voir. Avant de les voir, je rappelle, c'est un homme, il est anonyme. Il est boiteux, le texte nous dit, atteint de cette infirmité depuis le sein de sa mère. Il a une incapacité à user de ses membres inférieure, il a comme une sclérose des membres inférieurs. Et Luc va mobiliser le lexique de la dépendance pour décrire sa condition. On le porte comme un colis, comme un paquet. On le dépose, on l'installe. Et on ne l'installe pas dans la maison de prière, mais on l'installe en dehors de la maison de prière. Il fait partie, comme d'autres mendiants sans doute, de cette époque, du décor qu'on voit quand on arrive devant ce temple impressionnant. Et d'ailleurs, il est posé là dans la partie orientale de ce temple, devant une porte impressionnante. Impressionnante parce que, selon certains spécialistes, sculptée à bronze de Corinthe, elle est appelée la belle porte. Mais cette belle porte marque une délimitation entre un dedans et un dehors, entre la zone réservée aux non-juifs, le parvis des non-juifs, et la zone qui va distribuer vers les différents parvis au sein du peuple juif. Il reste devant la belle porte, mais il reste à l'extérieur. Alors, c'est pour ça que je crois que ce miracle est porteur d'une double symbolique. Parce que d'abord, dans les 8 premiers chapitres du livre des Actes des Apôtres, nous sommes tournés vers Jérusalem. Et vous savez que Luc, là, il a une critique, d'une certaine manière, ici, en creux, c'est de critiquer, d'une certaine façon, la théologie du temple de cette époque-là. Alors, il est en train de dire, regardez où ça se passe. Regardez où ça se passe et soyez humbles et apprenez. Il est en train de nous dire ça à nous. Ça ne se passe pas comme vous le pensez uniquement dans le temple. Ça ne se passe pas là. Parce qu'il est en train de mourir dans son formalisme. Il est en train de mourir de l'intérieur dans son légalisme. Il est en train de mourir dans ses frontières. Il a construit une identité citadelle. Comme la citadelle de Sisteron que j'avais visitée, on vous explique comment Vauban construisait et sécurisait ces villes. Situées en hauteur avec des murs qui font 3 mètres en pierre, etc., etc. Et à l'intérieur, il n'y a plus cette vie de l'esprit qui ne transforme plus. Et c'est devant la belle porte que quelque chose va se passer. Et cette vie qui transforme les hommes et les femmes, ça ne vient pas de l'intérieur du temple vers l'extérieur, mais ça vient de l'extérieur pour rentrer dans le temple. Ça nous rappelle quelque chose avec Jésus, n'est-ce pas? Quand il a purifié le temple. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour toutes les nations. Pour tous les peuples. Donc il y a une critique en creux ici qui doit nous interpeller. Que tout ce que nous construisons ne soit pas juste pour avoir un beau bâtiment, pour impressionner. Que tous nos cadres que nous mettons ne soient pas pour fermer des portes simplement, ou pour marquer des frontières. En disant, ici, voici ceux du dedans, et vous allez rester dehors. Parce que parfois c'est dehors que ça se passe, et pas dedans. Vous voyez pourquoi parfois il faut relativiser nos clivages. Alors le chapitre suivant nous apprendra que cet homme était âgé de plus de 40 ans. C'est toute une vie. Pour l'époque, c'est déjà un âge assez avancé. Une vie où il a été ostracisé, une vie où il a été pratiquement invisibilisé, il faisait partie de son décor. Et là, une première chose, je vais vous laisser 3 choses qu'on peut apporter de manière spécifique. La première chose que les disciples de Jésus vont apporter, c'est quoi? C'est quoi, à votre avis? Pardon? Il l'envisage, merci. Vous avez vu ça? Je vous avais tendu un piège fraternel. Hein, je croyais que vous allez me dire tout de suite la parole. Non. La première chose que nous pouvons apporter comme les disciples à ce monde, ce n'est pas seulement un autre regard. Parce que notre regard, il serait un regard de plus. Si c'est un autre regard, c'est un regard qui se juxtapose aux autres ou qui s'additionne aux autres. Mais nous pouvons apporter un regard autre. Un regard autre. Un regard qui ne se limite pas à l'écorce des choses, des arbres. Un regard qui est celui que nous donne le Christ, qui est capable de voir derrière les masques de la société, derrière le masque social de l'indigent, de celui qui mendie, de reconnaître l'individu créé à l'image de Dieu. De reconnaître un homme assis dans sa misère, mais un homme qui peut être debout. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, me réveillez-vous. Vous connaissez ce chant de Claudio de Capello qui m'a bouleversé un jour quand je l'ai entendu. Si je m'endors, me réveillez-vous. Il fait si froid dehors. Je suis un homme comme vous. Ça s'appelle un homme debout. Je vous invite vraiment à écouter ce chant. Des tripes y sont déposées. Il raconte la misère de quelqu'un qui a été renversé par la vie, qui mord la poussière, qui vit dans le froid, dans la faim, peut-être symboliquement en tout cas. Et il dit, malgré tout, je reste un homme debout. Je suis pas en Chine, debout à l'intérieur, c'est-à-dire cette dignité inaltérable. Parce que la gloire de Dieu, ce n'est pas l'homme rampant et mordant la poussière comme le serpent. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La femme debout, de l'intérieur, restaurée profondément, transformée. C'est ça le projet de Dieu pour nous. Être ce peuple qui trouve des hommes et des femmes écrasés, agacés, renversés, et qui les aide à se redresser parce qu'il les envisage avec respect. Et ça a commencé par là. Et Luc utilise pas moins de 4 verbes grecs différents. Le mendiant utilise d'abord « il regarde » avec le verbe « orao ». C'est le verbe courant pour regarder en grec. Il regarde machinalement et il s'attend à une seule chose, à une pièce. Mais Pierre le fixe. Asteno, un autre verbe qui veut dire regarder attentivement, intentionnellement. Pierre ne le regarde pas pour faire son devoir religieux. Il le fixe. Et ensuite, ils invitent ce mendiant à les regarder dans leur regard. Blepo, un autre verbe. Regarde-moi, regarde-moi. Comme s'il disait, regarde par cette fenêtre-ci. Vois-toi dans la fenêtre de notre regard. Et ce que tu vas voir dans notre regard, c'est un regard d'amour. C'est un regard qui te reconnaît comme faisant partie du peuple d'Israël. C'est un regard qui reconnaît que toi aussi tu peux entrer un jour et franchir la belle porte. C'est ça qu'ils ont fait d'abord, le temps du regard. Le temps de l'observation, le temps d'envisager l'autre, de lui rendre sa dignité. C'est un regard autre, dans une société qui de plus en plus indifférencie, ou veut indifférencier à tous les niveaux. Nous avons un regard autre qui accueille la différence, mais qui est capable de voir au-delà des premières apparences. Et ça s'appelle, en langage chrétien, le discernement. Et ce n'est pas notre regard, c'est le regard que l'Esprit met en nous pour que nous regardions comme Norbert nous rappelait hier, comme le Christ a regardé. Quand il voyait une foule, il ne voyait pas une masse. Il voyait des hommes, des femmes, des enfants qui étaient comme un troupeau sans berger. Et ses entrailles vibraient. Il avait la compassion dont nous pouvons apporter un regard autre derrière la société, derrière le masque des sociétés riches, des sociétés de croissance, des sociétés prospères. Moi, l'Africain, j'ai découvert avant de devenir aussi français qu'il y avait de la pauvreté en France. Mais pas seulement, comme cela nous a été rappelé par notre sœur Marie Orcel, pas simplement une question de seuil de pauvreté financière de 2 euros. Cette pauvreté que d'autres ne veulent pas voir et ne veulent pas nommer, et ne veulent pas reconnaître, ne veulent pas accueillir, cette pauvreté spirituelle. Qui donc, si ce ne sont les églises, qui vont être à l'écoute de ces besoins spirituels? Nous ne pouvons pas abandonner ce terrain. C'est ça notre spécificité aussi. Il ne s'agit donc pas pour nous de désarticuler l'action sociale de l'évangélisation. Et à ce propos, j'aimerais juste vous lire une pensée tirée de ce livre qui est un compte rendu d'un événement qui a eu lieu il y a 13 ans. Ça s'appelle l'engagement du Cap. Je ne sais pas si vous avez en entendu parler. Le Cap, c'est en Afrique du Sud. Et c'est dans le cadre d'un long mouvement qu'on appelle le mouvement de Lausanne. Et c'était la troisième rencontre, une sorte de congrès qui a réuni plus de 4200 responsables évangéliques, hommes, femmes, pasteurs, missionnaires, responsables d'œuvres sociales, etc., etc., pour les inviter à méditer, à passer 3 jours dans la prière, dans la méditation, et aussi dans l'écriture de ce que l'Esprit leur donnait. Et ils ont voulu reconsidérer la position des évangéliques vis-à-vis du monde. Parce que quand moi j'étais petit et jeune converti, on n'aimait pas le monde. C'était mauvais de dire, écoutez Claudio Capeo par exemple, il y a quelque chose de bon dedans. Moi j'ai dû me séparer de mon kimono par exemple, parce que je faisais karaté pendant longtemps. Alors, j'arrivais pas à le brûler tout seul, il fallait quand même en tirer quelque chose, donc je l'ai vendu. C'est mon côté Israël. Excusez-moi. C'est vrai. On a beaucoup de choses en commun, mais c'est un autre sujet, je vais vous dire. Et nous sommes appelés à ça, à ne pas séparer évangélisation et action sociale, mission et action sociale. Je me suis marqué lire page 44. La mission, on est appelé à la mission intégrale. Et juste, je vous lis ça parce que ça sera mieux dit. Écoutez, la mission intégrale est la proclamation et la mise en pratique de l'évangile. Il ne s'agit pas simplement de faire en même temps de l'évangélisation et de l'action sociale. Au contraire, dans la mission intégrale, notre proclamation a des conséquences sociales puisque nous appelons à l'amour et à la repentance dans tous les domaines de la vie. Et par ailleurs, notre implication sociale a des conséquences pour l'évangélisation puisque nous témoignons de la grâce transformatrice de Jésus-Christ. Si nous ignorons le monde, nous trahissons la parole de Dieu qui nous envoie dans le monde. Frère, cette parole est d'un poids que vous... Je ne sais pas, peut-être, moi je disais à Norbert, j'ai le sentiment que pour avoir grandi en Afrique, j'ai vécu les mêmes choses que vous, mes aînés, d'un certain âge. Et que quand je discute avec ceux qui ont entre 25 et 40 ans, parfois il y a l'impression que moi je suis plus vieux qu'eux. Parce que, voilà, aujourd'hui à eux, on doit dire, faites attention de ne pas vous diluer dans le monde. Mais nous, on nous a dit, le monde est dangereux. On a noirci le tableau à fond. On ne voyait rien de bon là-dedans. Et il y a eu un revirement quand même, ou un rééquilibrage quand même. Et cette phrase en témoigne. Si vous ignorez le monde, trahissez la parole de Dieu. Mais elle ne s'arrête pas là, la deuxième partie. Si nous ignorons la parole de Dieu, là où il nous a placés dans le monde, si nous mettons cette lampe sous le boisseau, alors nous n'avons rien à apporter au monde. Rien. Parce que vous avez bien pas échappé que quand Notre-Dame a brûlé, vous n'étiez pas les seuls à être émus peut-être. Pour mille raisons. Quand récemment les Restos du Cœur ont crié leur situation, vous avez vu qu'il y a bien d'autres personnes qui n'étaient pas indifférentes et qui ont donné beaucoup plus que ce que nous. Enfin, beaucoup plus, c'est relatif, si on rapporte ça à leur propre richesse. Qui ont donné ce qu'ils avaient à donner. Voilà. Donc parfois on dit beaucoup plus que nous et c'est pas vrai. Et la parabole de Jésus est de mon côté pour dire que celle qui a donné la petite pièce, rapportée à tout ce qu'elle avait, a donné l'essentiel. D'accord ? Bon, je ne vais pas entrer dans la politique. Hein. On ferme, vous savez qui a donné, combien a donné, et qu'est-ce que ça peut rapporter. Vous trouvez toutes ces informations-là, ça ne sortira pas de ma bouche, je suis déjà en retard. Le temps du regard autre peut apporter notre différence. Je veux vraiment... Vous êtes une communauté bénie, nous sommes une communauté bénie. Il y a tellement de visages différents, tellement de couleurs différentes, tellement de compétences. Hier, on a fait cet atelier avec la restitution de ce convié autre. C'est beau. Et là, dans ces lieux, allez, voilà, dans votre travail, dans votre quotidien, que Dieu nous donne un regard autre. Dans les problématiques sociétales, que Dieu nous donne un regard autre. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter à regarder. Parce que ce regard autre, c'est bien, mais il faut agir aussi. J'ajoute juste une chose, ce regard autre nous fait voir le ciel alors qu'on a encore les pieds sur terre. C'est le même verbe qui est utilisé quand on dit que Pierre les a fixés. C'est le même verbe qui est utilisé dans le grec quand on dit que Étienne a fixé le ciel. Oh, nous voyons que l'horreur de la lapidation. Nous ne voyons que la persécution dans le récit d'Étienne. Nous ne voyons que l'exclusion de l'Église. Mais Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et il a vu le Seigneur Jésus debout. C'est beau, n'est-ce pas? Il a vu le Seigneur Jésus debout. Il a vu le ciel s'ouvrir. Voilà ce qui se passe quand nous chaussons d'autres lunettes. Nous voyons le ciel en ayant les pieds sur terre. Un regard autre, Seigneur, pour l'Église. Un regard autre pour voir le ciel en ayant les pieds sur terre. Et un jour, nous serons pleinement. Deuxième chose, et je vais aller rapidement, une parole autre. Une parole autre. Il ne vous a pas échappé que cette parole autre arrive d'abord négativement, et elle a pu d'ailleurs surprendre cet indigent. Elle commence par lui dire, je n'ai que dalle. Il a dû se dire, mince, tout ça pour ça, regarde-moi, fixe-moi, regarde, c'est pour me dire que tu n'as que dalle. Tu ne peux pas me faire ça. Non, je n'ai ni argent ni or. Et on sait que dans le temple, il y a le trésor du temple. Et là-bas, tous les ustensiles, il y a de l'or, il y a de l'argent. Il dit, moi, je n'ai pas ça. Moi, j'y vais là-dedans, mais je n'ai pas ça. Alors, c'est une parole qui accueille nos limites. C'est une parole humble. Nous n'avons pas réponse à tout. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Et cette humilité ouvre aussi une autre parole et un dialogue. Je l'ai beaucoup pratiqué dans le dialogue avec les non-chrétiens. Ce qu'ils nous reprochent souvent, c'est d'arriver avec nos gros sabots et nos certitudes et de ne pas être dans l'écoute réelle. Et quand on arrive et quand on sait dire que là, tu me poses une question difficile, ou là, les connaissances scientifiques qu'on a dans tel ou tel domaine me mettent en difficulté, je vais creuser, je vais écouter davantage. Ça ouvre un espace au dialogue. Je n'ai pas ce que tu me demandes. Je profite pour dire aussi que, parce que j'aurai plus beaucoup de temps, je prends aussi dans ce temps de pastoral, d'introduction dans mon ministère, à votre service, au service du Seigneur à travers vous, ce temps aussi d'observer, de regarder. Je serai beaucoup dans l'observation et dans le regard, en vous envisageant, en essayant de mettre les prénoms sur chacun. C'est nécessaire. Mais c'est un regard autre, ce n'est pas un regard inquisiteur. Norbert ne l'avait pas, je ne l'aurai pas non plus, soyons rassurés. Donc je prendrai aussi ce temps du regard, ce temps de découvrir les contours de ce ministère que le Seigneur nous a confié. C'est important pour moi, d'accord? Mais en même temps, il y avait le temps de la parole. Et ce temps de la parole n'était pas en surplomb. Ça a commencé par accueillir un manque. On n'a pas tout, je n'ai pas tout non plus. Ni argent, ni or. Pour l'argent, je peux dire ça, mais pour l'or, je ne peux pas trop bien dire ça. J'en ai au moins une alliance. Or. Mais ce que j'ai, et c'est là ce qui est important, ce que j'ai, savoir ce que j'ai. Dieu ne me demande pas de faire avec ce que je n'ai pas ou avec qui je ne suis pas. Dieu me demande de faire avec ce que j'ai. Et il nous demande, nous, Église, de continuer ce ministère, non pas avec ce qu'on n'a pas encore, mais avec ce qu'on a. Et on a beaucoup, croyez-moi. Ce que j'ai, je te le donne. Et ce qu'il avait, ce n'était pas une pièce. C'était le nom de Jésus qu'on a beaucoup chanté depuis hier. Ce nom, en toi les humbles sont bénis. À toi les pauvres sont consolés. Les cœurs brisés, tu restaures. Voilà ce que nous avons. Et voilà ce que nous pouvons donner. Donne ce que tu as. Ce nom de Jésus, ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas une formule magique. D'ailleurs, les sept fils de Sheba l'ont bien appris dans Actes chapitre 19. Ils se sont risqués à aller chasser un démon en disant « Au nom de Jésus que prêche Paul, sors de ce corps !» Ils se sont fait bastonner. Et le démon leur a dit « Mais moi, je sais qui est Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Ils ont fui après une belle bastonnade. Il ne s'agit pas juste d'invoquer ce nom à légère. Ce n'est pas un gris-gris. Le nom de Jésus suppose une relation personnelle avec Jésus. Le nom de Jésus nous engage. Et nous l'avons reçu ce nom, ce beau nom de Jésus. C'est la personne et l'œuvre de Jésus. Vous savez, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, l'importance du nom. Et du nom que Dieu parfois change, pour changer, pour signifier qu'il change un destin. C'est au nom de Jésus. Donc le regard n'est pas sur eux. C'est pour ça que je disais qu'il nous suffit que notre prédication et que notre témoignage soient davantage tournés vers le Christ que vers nous. Ce que j'ai, mon frère et ma sœur, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Ce n'est pas eux qui ont accompli ce miracle de manière rigoureuse. Ils diront plus loin. Ce n'est pas nous qui l'avons fait et ce n'est pas à cause de notre piété que c'est en marche. Mais c'est à cause du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, c'est-à-dire c'est la personne de Jésus qui fait les miracles. Ce n'est pas notre petite personne. Enfin, nous avons donc cette parole singulière. L'assistante sociale, quand bien même elle serait chrétienne, peut-être n'aura toujours pas l'occasion d'avoir le nom de Jésus dans son accompagnement. Le médecin, le travailleur en milieu séculier, mais dans les autres espaces où la laïcité le permet, où il nous est donné de rendre compte de l'espérance qui est en nous, nous pouvons dire le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Ce nom qui relève. Et enfin, vient le temps du passage à l'action. Vous voyez comment l'observation, la réflexion et la suite de la parole ont préparé aussi le passage à l'action. Je n'aurais rien de plus que le nom de Jésus à partager avec vous, mes frères et sœurs. Oh, peut-être la victoire de l'équipe de France en rugby, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, des partages significatifs passeront par le prisme de ce nom-là. Et là, je suivrai un peu Dietrich Bonhoeffer qui nous a appris que dans la communauté chrétienne, il y a chrétienne. C'est-à-dire que je rencontre toujours mon frère et ma sœur en passant par le Christ. C'est lui la porte. C'est plus la belle porte, putain. C'est lui la belle porte maintenant. Et cette porte-là, elle est toujours ouverte. Frappe et on ouvre. D'accord ? Donc, dernière chose, et je conclue, le temps de l'action, le temps des gestes. Ils ne se sont pas arrêtés au regard, ils ne sont pas arrêtés à la parole. Mon père, mes frères, il a pris, il a touché comme le maître, et il a levé. Ah, vigoureusement d'ailleurs, le texte le dit. Et ses genoux et ses pieds chancelants se sont affermis. Il ne l'a pas secoué pour le clouer au sol. Et parfois, peut-être, vous allez avoir l'impression que le pasteur vous secoue de trop. Mais jamais avec l'intention de vous clouer par terre. Et parfois, vous allez me secouer. Et je me souviendrai que ce n'est pas pour me clouer par terre. On va se secouer. Mais en disant, lève-toi et marche. On ne va pas marcher à ta place. Tu vas marcher. Et c'est ça la gloire de Dieu. Et ceux qui se mettent à marcher ne nous appartiennent pas. C'est de sa liberté qu'il entre dans le temple à la suite de Pierre. Et le clou du spectacle est là. Ce n'est pas se lever pour se lever, pour faire du bruit, pour faire du bruit. Marcher sans direction, ça mène à quoi ? Beaucoup de fatigue, certainement. Mais il a marché en direction du temple. Il a dépassé une frontière. Parce que Dieu a déplacé la frontière. Il n'est plus quelqu'un de dehors, il est devenu quelqu'un de dedans. Il est entré dans le temple avec Pierre et Jean. Il n'est plus le mendiant, il est devenu quelqu'un qui apporte quelque chose dans le corps du Christ. Il apporte sa louange. Alors, frères et sœurs, oui, différents, mais pas indifférents. Que le Seigneur nous donne un regard autre. Que le Seigneur nous donne d'avoir confiance à sa parole humblement, proposée, jamais imposée. Sachant que c'est une parole autre. Et respectons l'altérité de cette parole qui ne vient pas de nous. Parole qui nous configure, nous aussi. Parole qui nous tient, nous aussi. Mais parole toujours proposée dans l'humilité et dans l'humble confiance que celui qui la donne est fidèle pour la tenir. Et enfin, oui, enfin, ne désarticulons jamais l'action sociale, nos belles œuvres préparées d'avance par le Seigneur, de notre témoignage, de notre parole. Je me réjouis beaucoup de voir que nous sommes une église où on est capable de tenir les deux, même si parfois ça nous pose d'autres questions. Mais oui, nous sommes sur la bonne voie. Un autre, un regard autre, une parole autre, des gestes autres. Tout ceci pour restaurer, relever et accompagner dans une plus grande communion avec Dieu, les hommes, les femmes, les frères et sœurs, qu'il confie à notre amour, à notre affection. Amen.
Merci beaucoup, Paul. Je voudrais accueillir la louange à venir. Et puis à David qui va nous partager ce temps de Sainte-Cène.